Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Nos essais de la semaine, Germain, on va commencer par parler d'un... Hey, j'ai-tu le droit de dire un coup de cœur?
Oui,
c'est ben, vraiment, écoute, oui. C'est
on ne vraiment... gêne pas pour taper sur le clou quand il faut, mais quand on a un coup de cœur, on peut le souligner.
C'est loin d'être un véhicule de très, très grande qualité, mais je trouve que pour un véhicule qui a 11 ans maintenant, ça a tellement bien vieilli comme look, comme design. Je trouve que son format est plus actuel que jamais et ça se distingue de tout ce qu'on propose dans ce segment-là.
Et c'est pour ça qu'on l'apprécie autant.
Le segment des intermédiaires, des VUS intermédiaires à trois rangées de sièges, et je parle du Dodge Durango que j'ai conduit cette semaine.
Oui. Et il n'y a pas d'ironie là, dans nos propos, absolument
non,
pas. Là.
Je sais que c'est pas un Toyota Highlander qui va garder sa valeur, qui consomme peu, qui a une qualité exceptionnelle, bon, etc. Mais on aime le vrombissement du V8, on aime le look très agressif, on aime la conduite de ce véhicule-là. On a complètement redessiné l'habitacle cette année et c'est franchement réussi. C'est ultra moderne à bord. Même si tu regardes le véhicule, puis c'est vrai que côté finition, seigneur,
c'est ça.
C'est encore ordinaire.
Il y a des défauts, ils sont nombreux, mais il y a tellement des grandes qualités, une personnalité si forte.
Ouais.
Et
tu stationnes ça à côté d'un Chevrolet Traverse. Là.
Oui, oui. Puis
il y en a qui est un ennui mortel, qui va bien. Parce qu'un Chevrolet Traverse...
Ça va pas mal.
C'est un véhicule qui va bien, mais...
C'est tellement fade, c'est tellement plate, c'est tellement sans personnalité. Et, tu sais, un véhicule qui serait son concurrent le plus direct, ça serait l'Explorer ST. Mais à choisir entre les deux, je n'hésite même pas une demi-seconde.
Le Dodge Durango que je conduis cette semaine, c'est une version RT équipée de l'ensemble Tow & Go. Ouais. Ce que ça fait, c'est que oui, ça amène la capacité de remorquage à un peu plus de 5000 litres. Mais,
et ça gronde un peu.
Ben c'est ça. C'est qu'il y a des échappements sport, il y a une suspension, une direction sport, il y a un mapping de la transmission qui est différent. Je m'excuse l'anglicisme. Alors, c'est
configuration de la transmission.
Alors, c'est vraiment une conduite beaucoup plus sportive qui se rapproche de celle d'une version SRT, mais sans le moteur SRT. C'est le V8 5.7 MI de 360 chevaux, qui est le premier moteur optionnel de 4 dans la famille Durango, parce qu'on a le Pentastar dans les trois premières versions, que sont les SXT GT et Citadel. Sur la version Citadel, tu peux avoir le V8 5.7 en option. Vient ensuite la version SRT, donc 392 avec un moteur de 475 chevaux, toujours atmosphérique. Tu peux avoir aussi une version Citadel Platinum avec moteur MI. Et finalement, arrive la nouvelle version pour cette année, qui est la version L4, qui n'a absolument aucun bon sens, avec 710 chevaux.
Mais on en profite tant qu'on peut le faire.
C'est épouvantable la consommation de ça. Pour vrai, ça a pratiquement pas de bon sens de pouvoir continuer à fabriquer des trucs de même. Écoute, j'étais à environ 17 litres au cent de moyenne.
Et là,
avec le Durango RT.
T'as le 5.7, là.
Mais
c'est
en
tout,
même temps,
là.
T'as envie de le faire gronder, tu le pousses un peu. Puis il y a un sacré look. Il est exceptionnel. Il est dans une couleur, il appelle ça le vert F8. C'est vraiment une couleur que j'adore. Et vous verrez prochainement une vidéo sur le site du Guide de l'auto pour parler de ce véhicule-là. Bref, c'est un véhicule que j'aime bien, mais son prix n'a absolument pas de bon sens. Le véhicule que j'ai conduit cette semaine, PDSF à 81 000 $ On enlève les rabais, on est à 73 000 c'est quand même beaucoup, beaucoup de sous. Mais ce qui est intéressant du Dodge Durango, c'est que je compilais les chiffres et depuis 2013, on en vend pratiquement le même nombre à chaque année, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est à peu près 80 000 unités du Durango qui sont écoulées annuellement à l'échelle nord-américaine.
Donc, même si le véhicule vieillit, les acheteurs ne sont pas moins nombreux au rendez-vous.
Ils ne sont pas moins nombreux. Et, bon, évidemment, en 2020, la baisse était d'à peu près 17-18 alors que la moyenne du marché était de 20. Donc, c'était à peu près
rien
normal.
D'alarmant.
Mais les Durango, ce sont des camions qui, jusqu'à une certaine limite, vont conserver une valeur beaucoup plus qu'avant parce que les versions récentes sont souvent rapatriées du côté des États-Unis.
Mm-hmm.
Question de taux de change. Il y a beaucoup de concessionnaires qui font de la location maison court terme pour ces véhicules-là et qui les renvoient de l'autre côté parce que louer ça chez FCA, avec SCI Leasing, ça n'a aucun bon sens. Donc
et dans l'occasion, ben, autant que dans le neuf, on va l'apprécier pour sa capacité de remorquage parce que ben, une famille, par exemple, n'aura pas nécessairement envie d'avoir un pick-up pour ses besoins de remorquage.
Ah, il y a une polyvalence qui est évidente. Donc, mais t'asseoir dans la troisième rangée de sièges là-dedans, ben,
c'est pas...
on s'entend que c'est pas le confort d'un pilote ou d'un Chevrolet Traverse.
Non, c'est certain. De mon côté, Antoine, quelques mots sur la Hyundai Sonata hybride que j'ai essayé.
Oui.
Et ben, on en a glissé un mot rapide la semaine dernière. Ce qu'on déplore, c'est qu'elle est disponible seulement dans la version Ultimate. Donc, autrement dit, c'est une seule version pour le Canada et c'est la version la plus luxueuse, entre guillemets, donc la plus chère aussi.
À 41 000 et des poussières.
Oui, exactement. Donc, tout près de 41 000. Ça commence à faire cher parce que ben, quand on regarde les concurrents qui seraient ben, tout simplement la Toyota Camry dans sa version hybride.
Ben, ça part à 32 à peu près.
Exactement. On a plusieurs niveaux d'équipement et de finition.
Il y a une différence. Il y a une différence marquée. C'est pas compliqué. Chez Toyota, on veut en vendre. Ouais. Chez Hyundai, on veut pas en vendre. Mais la preuve, c'est que si tu veux acheter une Sonata hybride demain matin et que tu t'intéresses à une version ultra luxueuse, jusque-là, tout va. Mais on te la finance à un taux plus élevé que l'ensemble des autres Sonata.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas si tu t'en vas chez Toyota et tu veux t'acheter une Camry. Là.
Voilà. Donc, il y a vraiment un désintérêt de la part de Hyundai de vendre ce véhicule-là. Et j'ai noté quand même, c'est intéressant pour la consommation de carburant. Donc, après un peu plus de 800 km, bon, beaucoup d'autoroutes, on sait que c'est peut-être pas dans ces conditions-là qu'une hybride va procurer un rendement intéressant. Mais la consommation affichée au tableau de bord était de 5,7 litres au 100 km, ce qui est assez bas. Et il y a quelques mois, bon, dans un contexte un peu moins glacial, j'avais pu conduire la Sonata à moteur à essence là, qui n'était pas hybride. Et la moyenne à la fin de la semaine était de 7,1. Donc, il y a une légère économie, mais pour la différence de prix...
Ben, à météo égale, il y a un bon 2,5 litres au 100.
Ouais.
Il y a un bon 2 litres et demi au 100 certain. Alors, moi, je pense que c'est quand...
Et c'est une mécanique qui est assez agréable à conduire.
Ça va bien?
Ça va bien. C'est étonnamment même, j'oserais dire, jusqu'à un certain point, performant. Et ben, c'est sûr que, comme la Sonata essence que j'avais conduite, ben, y a beaucoup de bruit provenant des suspensions. Donc, c'est assez bruyant. Quand on tape un nid de poule, et on sait qu'ils sont nombreux, ça se ressent en bas. Donc, c'est peut-être pas aussi confortable que les autres berlines intermédiaires qu'on a sur le marché.
Un point que tu n'avais pas mentionné, par contre, la Sonata hybride, c'est la seule de son segment à avoir une transmission automatique conventionnelle et non pas une CVT.
Et ça paraît. Et
ça paraît parce que c'est un point qui joue en sa faveur pour l'agrément de conduite. C'est un point que j'avais aussi bien apprécié de la Jetta hybride, de l'ancienne Jetta hybride qu'on avait vendue.
Une rareté.
Une rareté, mais qui n'était vraiment pas une voiture désagréable. En fait, une hybride très intéressante pour moi. Mais bref... une particularité de la Sonata qu'on ne vendra pas.